Bonsoir Aude Lavigne, on vous retrouve demain à 20h55. Bonsoir à toutes et à tous. La dispute. Ce soir, la musique. Ce soir, Mario Drou et Emmanuel Dupuis se font face à notre affiche Il Trovatore de Giuseppe Verdi, direction musicale Daniele Calegari, mise en scène Alex Ollé à l'Opéra Bastille à Paris. Et puis Lady Macbeth de Mzansk, Dmitri Shostakovich, direction musicale Kazushi Ono, mise en scène Dmitri Tcherniakov, c'est à l'Opéra de Lyon. Nous évoquerons aussi plus rapidement le CD Complete Works for Solo Piano de Maurice Ravel par Bertrand Chamaillot chez Erato. Vers 21h20, Antoine Guillaume nous livrera la revue de presse culturelle quotidienne de la dispute. Encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour le film Mad Love in New York de Josh et Benny Safdi, sorti hier sur les écrans français. Enfin, nous avons rendez-vous avec le cinéaste et comédien Bouly Lanners qui est toute cette semaine l'invité de la dispute. Il y a 2 semaines, nous parlions d'Il Trovatore déjà, mais c'était pour la mise en scène de Richard Brunel à l'Opéra de Lille. Cette fois, c'est à l'affiche de l'Opéra de Paris que l'on retrouve cet opéra en 4 actes de Verdi sur un livret de Salvatore Camarano, créé en 1853 à Rome. Cette fois, c'est dans une mise en scène d'Alex Ollé. Est-ce qu'il est transfuge ou est-ce qu'il est encore de la Fora del Baus? On ne sait pas trop, Mario Drou, si c'est encore dedans ou dehors. Bon, bref, c'est lui qui signe, en tout cas. Il y a toujours marqué entre parenthèses Fora del Baus. Alors, une sorte de...
Ils sont venus saluer quand même plusieurs.
Oui, mais enfin, elle est quand même un scénographe, une costumière. Oui. On sait pas très net. Bon, non. Bref. Je rappelle, je l'ai fait il y a 15 jours, je recommence. Hein. L'action se situe normalement au nord de l'Espagne, normalement au 15e siècle. Avant le lever de rideau, on nous explique la situation. Le père du comte de Luna a eu 2 fils, d'un âge proche. Qu'une nuit, on a découvert une gitane près du berceau du plus jeune des 2 frères, qu'on a chassé. Mais comme l'enfant est tombé malade, peu après, on avait pensé qu'elle lui avait jeté un sort. On l'a retrouvé, on l'a condamné au bûcher. Et la fille de la gitane, Azucena, décide de venger sa mère, s'introduit dans le château, s'empare du jeune enfant pour le jeter lui aussi au bûcher. Et là, c'est le mystère reste entier. Au lieu de jeter cet enfant, elle jette son propre fils. Donc elle garde l'enfant volé, l'élève, il prend le nom de Manrico. Et au début de l'opéra, Manrico est adulte, trouvère. Et Azucena, elle est toujours décidée à exercer sa vengeance contre le comte de Luna à travers son faux fils.
Oh, come to me, sempre unita.
Que de bravo pour Anna Netrebko. Enfin, précisons tout de suite qu'il faudra se dépêcher pour l'entendre chanter dans notre ouvert, puisqu'elle assurera les représentations jusqu'au 15 février, et qu'ensuite ce sera Rui He qui assurera les 8 représentations suivantes. Or, m'a-t-il semblé, à lire les uns et les autres dans les différents organes de presse, il faut quand même se précipiter pour Anna Netrebko en premier, Marie-Audreau.
Bah écoutez, oui, Toscanini disait que pour distribuer le trouvert, il suffit des 4 meilleurs chanteurs du monde. Et là, je pense que l'Opéra de Paris s'est donné les moyens, en tout cas, d'essayer d'y parvenir.
Et on en a 3,5 là.
On en a 3,5,
c'est
voilà.
Beaucoup.
C'est déjà
énorme.
C'est énorme.
C'est déjà énorme.
Et c'est vrai que Anna Netrebko, bon, là, on a entendu au début, on sent que la voix n'est pas encore complètement chauffée d'ailleurs. Mais bon, ça va aller
en crescendo.
Et la fin est absolument sublime, quoi. C'est la grande Léonora actuelle. Voilà, donc rien que pour ça, il faut y aller.
Ah. Et dans les 2,5 qui restent alors, Emmanuel Dupuis ?
Eh bien, tout d'abord Ludovic Tézier, qui lui est le grand baryton Verdi du moment. Ça, on s'en doutait déjà depuis quelque temps, mais là, c'est vraiment la confirmation. C'était, je crois, son premier Comte de Luna, et c'est fabuleux, quoi. La façon dont il phrase, enfin, comme un violoncelle, c'est extraordinaire, quoi. Puis avec cette voix qui est totalement homogène, du grave jusqu'à un registre supérieur insolent, ça c'est absolument magnifique. Et également Ekaterina Semenchuk, qui elle est le grand mezzo verdien du moment, pas du tout caricatural dans son incarnation d'Azucena, parce que parfois on a des chanteuses qui ont fait un peu des tonnes, mais là pas du tout. Non, au contraire, elle reste extrêmement digne, et puis avec un vrai timbre de mezzo charnu sur toutes les tendues de la tessiture, c'est vraiment vraiment une très grande incarnation. Le demi-point
pour
le bémol, si on veut, ce sera pour Marcello Alvarez. Bon, à mon avis, le soir de la première, il était en méforme.
Bah, j'ai quand même un peu envie de dire pour lui sauver la mise que bon, c'est vrai effectivement que son Dicuela Pira, qui est le grand air de
bravoure,
l'opéra, c'est l'air de bravoure. Effectivement, c'était pas dans la grande tradition des airs de la voix complètement déployée, etc.
Mais il y avait. Mais il en est capable.
Oui, on pense qu'il en est capable. Ce qu'il y a, c'est. Mais par contre, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est qu'il a fait du personnage quelque chose d'un tout petit peu plus ambivalent, avec justement c'est un personnage qui est plein de fêlures, hein. Manrico, il sait pas finalement le fils de qui il est, il sait pas qu'il doit aimer, il sait pas qu'il doit détester, enfin. Et donc, c'est un air, effectivement, qui dit, bon, allons-y, je vais venger ma mère, je vais, etc. Mais, en l'occurrence, c'est un peu un Cid, quelque part, qui ne sait pas quelle partie prendre. Donc, je trouve que, d'une certaine façon, il a donné cette nuance-là. Et on sent quand même, honnêtement, que,
enfin, vous utilisez le terme de nuance qui je trouve n'est pas justement très bien approprié parce que justement je trouve que Marcello Alvarez a tendance à donner de la voix et une belle voix. Ça, la voix est belle, c'est un peu.
Les aigus sont quand même d'une facilité.
Ça j'ai pas vraiment trouvé. Au contraire, il y a même certains aigus étaient totalement escamotés et c'est pour ça que je parlais de mes formes tout à l'heure. Bon, c'est une belle voix bien entendu, mais il était quand même nettement en dessous des 3 autres. Et bon, simplement aujourd'hui, pour redistribuer ce rôle-là, c'est pas évident. Je peux avoir mon avis. Bon, clairement, il n'y en a qu'un qui pouvait faire mieux aujourd'hui. Et c'est toujours le même.
Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé.
Oui, mais Jonas Kaufmann, il annule en ce moment pas mal de choses.
Il ne peut pas être partout.
Il ne peut pas être partout, voilà.
Bon, alors les 4, les 3,5 ne seront pas toujours là non plus. Il faut dire que Ludovic Tézier s'arrêtera le 29 février. Qu'Ekaterina Semenchuk s'arrêtera, elle, le 29 février. Et que Marcello Alvarez est là jusqu'au bout. Mais pas là de soir. Enfin, donc il faut quand même bien viser, si on le peut, pour aller voir le meilleur plateau vocal qu'il soit. Alors, et avant de parler du reste, pour le plaisir, écoutons aussi donc Ludovic Tézier.
Il raggio, io
Oui, on est bien à Bastille, pas loin de ça, pas à Bercy, non, ça s'appelle plus Bercy maintenant, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, les bravos, les vivas sont là. Alors, nous avons parlé de voix, on a peu parlé de musique. Parlons de, peut-être de Daniel Les Caillegari. Vous commencez, Emmanuel Dupuis, sa direction d'orchestre.
Oui, oui. Moi, pour tout dire, j'ai trouvé ça assez, comment dire, assez routinier.
Plan-plan, on a entendu là quand même, hein.
Oui, bah pouf, oui, pouf, si, pouf, si vous voulez, pouf. Plan, oui, c'est assez, oui, pas beaucoup de tension dramatique. Et quand il essayait de mettre un petit peu de tension dramatique, eh bien, c'était souvent assez brouillon.
En décalage.
Assez brouillon. Il y a eu des décalages quand même qui, pour l'Opéra de Paris, quand même, moi, me semble pas tout à fait normaux. À un moment, le chœur était, enfin, et ça a duré
assez longtemps.
Assez longtemps, où on s'est dit, mais bon, quand
est-ce qu'ils vont retomber sur leurs pattes,
voilà. Quand est-ce qu'ils vont arriver à se remettre ensemble? Donc voilà. Et moi, évidemment, j'ai pensé à ce qu'on avait entendu il y a quelques semaines à Lille, avec un orchestre, certes, beaucoup moins prestigieux, des chœurs, certes, beaucoup moins prestigieux.
Mais alors, ça y allait. Hein.
Mais un résultat bien supérieur, parce qu'un chef beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus investi, beaucoup plus inspiré. Et là, on n'avait pas ça à Bastille. C'est clair.
Marie-Audre, vous êtes
d'accord ? Ça fait partie d'un des deux gros bémols de cette production. Je trouve que, effectivement, peut-être que Toscanini aurait dû rajouter, c'est qu'il fallait peut-être aussi le meilleur chef du monde pour bien diriger sûr. Ça. Est-ce qu'il était donc, enfin, est-ce qu'il a été en tout cas, ce qui fait qu'évidemment, il n'y a pas pensé. Mais là, en l'occurrence, on a un chef de fosse effectivement routinier. Et en plus, moi, j'ai l'impression qu'il a été noyé dans la... Il n'a pas géré l'espace, il a pas géré le rapport de l'orchestre avec la scène. Et c'est d'autant plus étonnant quand même qu'ils ont quand même un certain nombre de répétitions. Mmh. Et en plus, bon, ce serait, j'allais dire, ça se serait cantonné à la première partie de l'opéra. On se serait dit, bon, voilà, oui, c'est une première, etc. Mais non, ça a vraiment continué jusqu'au bout. Outre le fait que... Et même, cette sonorité n'était pas belle, c'était terne. Et quand on sait ce que peut faire l'orchestre de l'Opéra de Paris, c'est quand on a vraiment l'impression qu'il est là vraiment sous-employé, ou alors, je ne sais pas, ils ont fait autre chose pendant la représentation. Ils étaient en train de regarder un match, ou je ne sais pas, mais toujours est-il que ça, c'est vraiment la grosse déception. Oui. Et d'ailleurs, les chanteurs, Ludovic Tizier, ce qu'on vient d'entendre, franchement, il n'est vraiment pas aidé. Il n'a aucune pulsation, il n'a aucun soutien. C'est quand même une grande élégie qu'il tient tout seul à bout de souffle. J'ai l'impression que c'est lui qui tient l'orchestre, donc c'est quand même un peu le monde à l'envers. Voilà.
Bon. Et vous avez dit deux bémols.
Oui.
Alex Oyer serait sans doute le deuxième, hein, Marie-Audron.
Bah écoutez, oui, moi j'ai l'impression qu'on avait un décor. Alors un décor, bah voilà, un grand décor très plantureux, très impressionnant, avec des tombes creusées, des mottes de terre, enfin qui s'élèvent dans le ciel, qui deviennent. Après, ça fait comme une sorte de dents qui reviennent dans les mâchoires, ou je ne sais pas. Enfin, et c'est un dispositif extrêmement lourd qui est là tout le temps. Il y a ces tranchées, parce qu'on faut quand même dire que
oui,
ça se passe pendant la guerre
18.
De 14. Voilà, on l'a pas dit. Ça se passe dans la guerre de 14, donc ils sont avec leur masque à gaz. Et soi-disant, la guerre de 14, c'est bien parce qu'en temps de guerre, les gens font n'importe quoi. Donc c'est normal que la gitane et puis confonde son fils avec l'enfant qu'elle venait de voler. Bon, donc, sauf que, bon, il faut être aussi un peu, il va avoir des gros problèmes psychologiques en plus, hein, il n'y a pas que les temps de guerre. Et après, on rentre dans une série, je dirais, d'anachronismes, on parle de bûchers, de sorcières, etc. Et on voit des gens en uniforme qui. Bon, donc, je dirais que la justification de cette transposition par Alex Oyer, elle est bête. C'est pas une justification du tout. Et là, il a été complètement bouffé par son décor. Il n'y a pas de direction d'acteur. On a vu les chanteurs faire exactement ce qu'ils auraient fait si on les avait laissés tranquilles pour chanter. Et en plus, ils ont été empêchés parce qu'il y avait des filins qui tenaient ces mottes de terre qui montaient, qui descendaient. Il y avait ces tranchées qui étaient dangereuses. Il y avait ces trous qui étaient dangereux. D'ailleurs, Madame Née près de Trepco s'est cassée la figure dedans dans une répétition et elle a mis sur Facebook sa cheville bandée pour montrer voilà que c'était dangereux de travailler à l'Opéra de Paris. Enfin, toujours est-il que on est quand même resté. Alors il y a si quand même, on va quand même trouver. Moi, la seule chose que j'ai trouvé assez belle, c'est le dernier tableau dans le cachot, quand tout d'un coup on voit plus justement le décor, mais que la surface des tombes, parce qu'il faut bien appeler des tombes, est juste mise en lumière. Donc ça fait quelque chose d'assez abstrait. Et là, on se trouve dans une forme de no man's land qui est assez épurée, qui est belle.
Bon. Mais tout le reste du temps, il aura fallu patienter pour voir une belle image.
Donc j'ai envie de dire, voilà, une mise en scène qui n'est pas une mise en scène, c'est un décor, c'est une scénographie, et dedans, ben voilà, chacun fait ce qu'il peut, et Pas beaucoup.
Un peu moins sévère, Emmanuel Dupuis ?
Au-dessus, encore plus. Effectivement, ça n'est qu'un décor, mais en plus, c'est un décor pas très beau.
Oui.
Et on n'attend pas ça de la Fureur d'Albos, parce que, en général, justement, les spectacles de la Fureur d'Albos, c'est vrai que ce n'est pas toujours du théâtre extrêmement fouillé, mais visuellement, souvent, quand le rideau se lève, c'est waouh ! Wow,
c'est impressionnant.
Après, il faut que ça dure, mais on avait parlé, je crois, il n'y a pas très longtemps, du vaisseau fantôme à Lyon. Une fois le rideau levé et waouh, il ne se passait plus rien quand même.
Mais il y a une belle image, après, voilà.
Mais là, c'est même pas waouh, c'est bof. Quoi. Parce qu'effectivement, on a ces gros parallélépipèdes qui rentrent dans les tombes, qui en sortent, qui forment des colonnes, qui délimitent un cloître, et ça n'arrête pas pendant 4 actes.
Oui.
Donc au bout d'un moment, on n'en peut plus. Quoi. Et effectivement, en termes de direction d'acteur, c'est à peu près le degré zéro, c'est-à-dire que les chanteurs sont plantés à l'avant-scène et on a l'impression qu'ils font à peu près ce qu'ils veulent, ce qu'ils feraient dans n'importe quelle mise en scène conventionnelle des années 1930. Donc voilà, et la transposition pendant la Première Guerre mondiale, effectivement, d'abord c'est assez discret parce que la seule chose qu'il indique, en fait, c'est les uniformes des militaires et leurs masques à gaz. Et puis, franchement, ça n'apporte strictement rien.
Quoi. Oui,
donc moi, j'ai plutôt l'impression... donc du coup, voilà, heureusement, le niveau du plateau vocal était tel que c'était l'extase et tout le monde se concentrait sur le plateau vocal. Et cette mise en scène a au moins le mérite de ne pas aller contre le chant ni contre l'ouvrage, parce qu'elle ne lui fait
Va contre les chanteurs, puisque Madame Étrecou a failli passer.
Enfin, ils ne sont pas aidés, on l'a dit aussi.
Mais enfin, bon, elle ne va pas non plus contre l'ouvrage, elle ne fait pas dire autre chose à l'ouvrage que ce qu'il raconte. Mais ceci étant, moi j'avais l'impression de voir une version de concert améliorée, quoi. Guerre plus.
Ouais. Bon, il y avait ces voix-là, alors il faut bien viser, hein, je l'ai dit plusieurs fois. Parce
oui, il faut être un peu sniper là pour retenir ses places.
Les 3,5 meilleurs du monde, ils ne sont pas encore beaucoup là ensemble, sur la scène de l'Opéra Bastille, pour ce Trouvère de Verdi, à voir, alors avec différentes distributions, jusqu'au 15 mars.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Avant de parler de Lady Macbeth de Mzinsk, je vais y arriver, hein, c'est à l'Opéra de Lyon, nous retrouverons l'invité de La Dispute, le comédien et cinéaste Bouly Lanners. Nous évoquerons aussi les œuvres complètes pour piano seul de Maurice Ravel par Bertrand Chamaillou chez Erato, la suite des œuvres complètes d'Antoine Guillot avec la revue de presse culturelle quotidienne de La Dispute. Bonsoir cher Antoine.
Bonsoir Arnaud Laporte, bonsoir à toutes et à tous. Bernard Faucroul, le directeur du Festival d'Aix-en-Provence, quittera ses fonctions en décembre 2017. Nous apprenez fin décembre une brève de la Croix. À cette date, il aura achevé son 3e mandat à la tête de l'institution d'art lyrique et n'embrigue pas un 4e. Tout en poursuivant son engagement au service de la diffusion artistique, Bernard Faucroul, remarquable organiste, souhaite se consacrer à l'interprétation et à la composition. Un mois plus tard, une autre brève de la Croix signale que c'est le réalisateur Christophe Honoré qui fera l'ouverture du prochain festival d'Aix-en-Provence. Familier des plateaux lyriques, le cinéaste réalisera sa première production au Festival d'art lyrique avec le Così fan tutte de Mozart, génial marivaudage tout de délicate cruauté, d'humour et de mélancolie dont le titre signifie pour les non-italianophones « Ainsi font-elles toutes » et que font-elles toutes ces dames du scandale. Parfois, le chef Myung Chung a démissionné de son poste à la tête de l'orchestre philharmonique de Séoul, a-t-on lu mi-janvier dans l'Obs, sa femme aurait demandé à des musiciens d'accuser la présidente de l'orchestre de harcèlement sexuel. Depuis, précise Diapason, elle a été elle-même accusée de diffamation à l'encontre de l'ancienne présidente de la formation sur fond d'interminables guérillas internes. Le mieux reste donc de tenir les femmes à l'écart des orchestres, comme le rapporte cette autre information de Diapason. L'orchestre symphonique de Téhéran devait se produire fin novembre dans le cadre d'une compétition de lutte en Iran. Rien de très spectaculaire au programme qui comportait l'hymne national, mais au dernier moment, les organisateurs ont refusé la présence de femmes dans les rangs de la formation. Les chaises étaient disposées et tout avait l'air en ordre, a relaté le chef permanent de l'orchestre, Alexander Rabari, formé à Vienne. Mais avant l'hymne, ils ont annoncé que les femmes ne pouvaient pas monter sur scène. Impossible pour moi d'accepter une telle insulte. Nous jouons tous ensemble ou nous ne jouons pas, a signifié le chef aux organisateurs. Les chanteuses ou musiciennes musulmanes n'ont pas le droit de se produire seules sur scène depuis la révolution islamiste de 1979, mais elles sont théoriquement autorisées à jouer dans un orchestre. Faut-il voir dans cet incident un nouveau raidissement du régime des mollahs ? Heureusement, sous nos latitudes, les femmes peuvent jouer dans des orchestres et même les créer. Cela faisait un moment, écrit Christian Merlin dans le Figaro, que l'on était intrigué par cet orchestre français au nom anglais, récemment apparu dans le paysage musical comme un ovni, l'Alma Chamber Orchestra. Peut-être n'y aurait-on pas prêté attention. Sans son côté, People, la fondatrice et premier violon de cet ensemble, et Anne Gravoin, qui n'est autre que l'épouse du Premier ministre, Manuel Valls. De fait, l'autre soir, pour leur concert à la Philharmonie de Paris, on pouvait croiser beaucoup de têtes couronnées de la politique et du showbiz, que l'on ne voit jamais. Un concert classique, des discours introductifs rendus plus fastidieux que d'ordinaire par une mauvaise sono. On rappelle que cet orchestre a été fondé pour défendre la cause de la paix, que son président est un homme d'affaires très actif au Koweït, Zouhir Boudemag, et que les musiciens vont se produire au Qatar. Que la musique soit un message de paix, cela ne faisait pas de doute. Le divan de Daniel Barenboim en est une preuve quotidienne. On est plus dubitatif, tempère le critique musical du Figaro, sur la nécessité d'un concert de plus à Paris où la saison symphonique est déjà dense, avec un programme tout ce qu'il y a de conventionnel. Mais qu'à cela ne tienne, si la sincérité l'emporte sur le coup médiatique, pourquoi pas ? D'autant que le chef Lionel Bringuier est l'une des étoiles de la jeune génération de maestro français, que la seule présence de la pianiste Martha Argerich nous ferait nous déplacer même en civière. D'ailleurs, autant le dire d'emblée, elle a été tout simplement fabuleuse dans le concerto numéro 2 de Beethoven, feu d'artifice, de liberté et d'inventivité. L'intérêt était de découvrir la personnalité musicale de cet orchestre, et là la perplexité s'accroît. En voyant ses membres entrer sur scène, on reconnaît celui-ci, puis celui-là. Ah tiens, lui aussi et elle également, on croit se retrouver à un concert d'abonnement de l'orchestre de Paris. Une bonne partie des cordes et la quasi-totalité des pupitres, de l'harmonie jusqu'au timbal en sont issus. Ajoutez le violoncelle solo, la chef d'attaque des seconds violons et plusieurs toutistes de l'opéra, une pincée de musiciens du national, et vous aurez l'impression d'une réunion de mercenaires issus des formations parisiennes, comme au bon vieux temps des orchestres de studio. Il est vrai que la régie d'orchestre est la spécialité d'Anne Gravoin, imbattable dans l'art de réunir des musiciens pour les spectacles des stars de variété. Elle a même régénéré ce métier que l'on croyait disparu et qui fut florissant dans les années 1970 et 80, quand musique de film et show télévisé procuraient des affaires aux musiciens classiques les plus débrouillards. On surnommait alors les requins, ceux qui entraient dans ce circuit lucratif, et lorsqu'on regardait les émissions de Mariti et Gilbert Carpentier ou de Michel Drucker, on croyait voir une annexe de l'orchestre de l'opéra accompagné de Johnny ou Michel Sardou. Le retour en force des effectifs symphoniques dans la variété a entraîné celui des orchestres de cachetonneurs. Le problème, c'est que dans le répertoire classique, il faut plus qu'un bon carnet d'adresses pour faire un véritable orchestre. L'autre soir, dans l'ouverture les hébrides de Mendelssohn, comme dans la symphonie Rhénane de Schumann, on a été frappé par la sonorité froide et lisse des cordes, sans densité ni grain sonore, sans parler des décalages flagrants dans le concerto, phénomène que ne pouvait arranger la direction droite et précipitée de Lionel Bringuier, qui laissait peu de place à la respiration et au phrasé, sans parler de la poésie. Il faut beaucoup plus, conclut Christian Merlin, que quelques coups de téléphone pour arriver à forger un son commun. Ce sera la leçon musicale de ce concert, au-delà du message humanitaire.
Vous y étiez, Marion Drault ?
Oui, oui.
Et alors ?
Je partage.
Vous auriez pu signer ?
J'aurais pu, oui, oui. D'ailleurs, je m'en suis un petit peu empêchée parce que j'attends d'entendre un concert qui vaille la peine. Mais bon, c'était assez décontenançant, effectivement, ce type de prestation, on va dire.
Manel Dupuis ?
Non, je n'étais pas à ce concert, mais enfin, je fais totalement confiance à la vie de Christian Merlin, qui est un grand connaisseur de la chose orchestrale. Mais de toute façon, c'est évident, un orchestre, ça n'improvise pas. C'est une équipe qui doit être soudée et qui doit travailler pendant de longs mois ensemble pour obtenir un résultat artistique.
La chose qui m'étonne un tout petit peu, c'est que quelqu'un comme Martha Argerich, qui, on sait, est extrêmement, exigeante sur ses partenaires, puisse venir se commettre dans un concert comme ça. Le jeune Bringuier, lui, bon, j'imagine qu'il a peut-être pas trop le choix, j'en sais rien. Alors, il est à l'orée de sa carrière, mais
parfois ça marche. Si vous voyez l'orchestre du Festival de Lucerne, par exemple, c'est aussi un festival, une réunion de musiciens qui viennent d'un peu partout,
qui travaillent ensemble, qui ont la même culture.
Là, c'était probablement un petit peu improvisé.
Bon, alors, je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup de répétitions.
Ouais. Antoine a cité Christophe Honoré, qu'on attend de voir, même. pour causer fond de toutes, oui, il faut dire qu'il y aura quand même aussi Christophe Warlikowski, il y aura Katie Mitchell, il y aura Peter Sellars, qui sont d'autres noms qui nous font envie, il faut le dire.
Oui, je crois qu'on va avoir un festival d'Aix assez excitant,
de ce point de vue-là. Bah, ça a souvent été le cas, toutes ces années dirigées par Bernard Faucroul. On est triste, enfin moi personnellement, de ce départ. En même temps, voilà, lui part à la fin de ses mandats, contrairement à d'autres. Mais bon, voilà, on espère qu'on se retrouvera à Aix-en-Provence pour pouvoir goûter ses plaisirs et puis les transmettre à nos éditeurs et auditrices. Un sujet dans l'actualité traité plus rapidement cette semaine, les œuvres complètes de Maurice Ravel pour piano seul, gravées par Bertrand Chamaillot. C'est pour Erato. Avant d'en parler, on va écouter le tombeau de Couperin. Bertrand Chamaillot chez Erato pour ses œuvres complètes de Ravel pour piano seul. Marie Audreau.
Écoutez, je trouve ce garçon, il a quand même un petit talent qui est de faire des disques qui ont quelque chose, qui apportent quelque chose dans des répertoires aussi déjà courus que Liszt, Schubert ou ici Ravel. Cette espèce de quelque chose de très très sain entre une vision assez architecturée de la musique. Un peu lointaine, je dirais, enfin un peu survolée plutôt, et puis en même temps des moments où l'esprit d'aventure s'empare de lui, et puis aussi beaucoup de fougue et de sensualité en même temps. Donc j'aime bien cette espèce d'adéquation, cette alchimie dans Ravel. Et voilà, donc je trouvais que ce disque méritait d'être
mise en lumière. C'est le cas pour vous, Emmanuel Dupuis?
Qu'il mérite d'être mis en lumière, oui, certainement, parce que c'est... Bon, récemment, ces dernières années, on a quand même eu plusieurs intégrales Ravel de très haut niveau, celle de Jean-Éflamme Bavouzé, surtout celle d'Alexandre Tarot et Pierre Huchard, Monia Mundi. Et celle-ci se situe aussi à un très haut niveau. Bon, ce qui est époustouflant quand même, c'est les moyens purement pianistiques, purement techniques.
Digitaux.
Digitaux, oui. Voilà. Il y a une facilité. Ah oui. Dans les jeux d'eau, par exemple, c'est époustouflant de facilité. Quoi. C'est vraiment la musique cool, vraiment. Quoi. Il y a aucun souci. Il y a effectivement un sens de l'architecture, notamment dans Gaspard de la Nuit, qui est assez fabuleux. Bon, puis cette sonorité très profonde, avec des effets de gradation, toujours très, très bien maîtrisés. Ce qui me manque un petit peu, moi, c'est du sentiment, de l'abandon, de la poésie, un peu d'ironie aussi parfois. Et moi, si je compare par exemple à Alexandre Taro a probablement des moyens digitaux bien inférieurs à ceux de
Bertrand Chamaillou.
De Bertrand Chamaillou, ce qui n'est pas du tout lui faire injure, mais en même temps, Taro a un univers à lui. C'est un vrai poète du piano et du coup, moi, je suis beaucoup plus touché par ce que fait Taro dans son intégrale Ravel que ce que fait Bertrand Chamaillou. Mais d'un simple point de vue pianistique, c'est quand même assez époustouflant. Ça,
moi, ce que j'aime chez Chamaillou, c'est qu'on a l'impression que c'est quelqu'un qui sait rassembler des univers différents et en faire quelque chose de cohérent. Alors,
ce point très positif, c'est que les pièces ne sont pas regroupées par ordre chronologique comme on le fait d'habitude,
voilà.
mais elles s'enchaînent.
C'est comme des tableaux d'une exposition, voilà. c'est quelqu'un qui recrée son idée de Ravel, et ça j'ai trouvé vraiment intéressant.
Elles s'enchaînent par affinité de caractère, de tonalité, donc du coup il y a une vraie dramaturgie. Quand on écoute dans la continuité, c'est beaucoup plus intéressant que d'avoir ça.
De sortir une pièce et de l'écouter.
Donc effectivement, de ce point de vue-là, il s'écrit.
Voilà, on a l'impression finalement c'est un disque qu'il faut écouter comme une œuvre à part entière. Comme un vrai programme. Et peut-être, effectivement, peut-être qu'on voudrait peut-être plus d'abandon à certains moments, mais moi j'aime bien ce côté un peu j'aime et je regarde en même temps, hein, parce que c'est aussi quelqu'un qui s'est donné, qui sait être lyrique, bien entendu, et effectivement, ces moyens digitaux sont aussi des moyens qui met au service de l'expression de la musique. Mais je trouve, en l'occurrence, peut-être que oui, c'est vrai que Taro a un univers bien à lui et que c'est attachant, et qu'on sent moins peut-être la personne Chamaillou. Ce qu'on sent chez Chamaillou, c'est vraiment cette volonté de restituer une œuvre en ayant sa propre. Reconstitution, sa propre recréation de l'œuvre, mais pas dans le détail, vraiment dans l'entièreté de l'œuvre. C'est pas pour ça d'ailleurs qu'il a fait une intégrale et qu'il n'a pas enregistré seulement, par exemple, les Vases nobles et sentimentales
ou Gaspard.
C'est d'ailleurs un double CD pour le coup, évidemment, que ces œuvres complètes de Maurice Ravel pour piano seul. Gravé donc par Bertrand Chamaillou pour Erato. Dans quelques minutes, nous nous intéresserons à Lady Macbeth de Mzinsk à l'Opéra de Lyon. Avant cela, on va retrouver l'invité de la dispute, Bouly Lenners, dont on peut retrouver l'actualité en se rendant sur le site franceculture.fr à la page de l'invité de la dispute.
Enchanteur, comment allez-vous? Très bien, merci.
Bouly Lenners, on parle de musique le jeudi soir dans cette émission. Alors musique, le territoire est vaste, immense, puisque toutes les musiques ont droit de citer dans cette émission. Votre rapport à la musique, il est, on parlait de cinéma et de période de boulimie, est-ce qu'il y a un rapport comme ça qui peut être compulsif par moment? Est-ce que vous êtes du genre à écouter la même musique en boucle toute la journée, pendant 2 mois? Ou est-ce que vous avez besoin de silence? Comment ça se passe le rapport à la musique?
Mais il est plus charnel et il est plus quotidien. J'ai besoin de musique au quotidien, j'ai besoin de musique pour travailler, ce qui n'est pas le cas du cinéma, où là j'ai besoin de ne pas avoir de cinéma pour travailler. Pour l'écriture, j'ai besoin de musique, c'est-à-dire l'acte d'écrire ne fonctionne que s'il y a de la musique. Elle me permet de rentrer dans une espèce de transe, en tout cas, qui me détache un peu du monde et qui me permet d'être dans une bulle et qui me permet du coup d'écrire.
Mais est-ce que les musiques dépendent des projets, du coup ?
Non. Au gré de l'écriture, une quinzaine de morceaux reviennent d'une manière incontrôlée. Et c'est donc ces musiques-là qui plus tard formeront la base de ce que sera la bande-son du film. La couleur musicale, en tout cas, de ce que sera la bande-son du film. Et là, du coup, à ce moment-là, cette musique peut devenir obsessionnelle parce que je peux écouter des musiques en boucle. Et quand je dis en boucle, je peux écouter un morceau 100 fois de suite. C'est-à-dire que je m'oublie totalement et je mets le morceau en boucle et il me permet d'écrire. Mais il est là et je ne sais même... Ça peut être tout l'après-midi. Pour le reste, j'écoute beaucoup de musique et j'ai toujours écouté beaucoup de musique. J'ai commencé par le rock, évidemment, le punk, et j'écoute toujours beaucoup. J'ai beaucoup d'amis qui sont toujours sur la scène punk, sur la scène... Il y a beaucoup de vieux rockers hein, qui reviennent, beaucoup de vieux punk. Je pense que 50 ans, tout le monde ressort sa guitare Gibson et remonte sur scène avec ses, en faisant ses trois accords et je trouve ça très jouissif. Donc j'adhère totalement. Et puis alors, j'écoute plein d'autres choses. Après le punk et le rock, moi, ce que j'ai écouté dernièrement qui m'a vraiment... aimé, que j'ai vraiment aimé, c'est tout ce revival folk aussi, à partir de The Last Man on Earth, les Cave Singers, et puis alors toute cette veine de chanteuses, Aléla Diane, Cat Power, Laura Vers, à partir de il y en a beaucoup, ouais. Jesse Sykes, donc il y a énormément de choses que j'écoute, et j'écoute de la musique tous les jours, et mon épouse aussi, elle me fait découvrir aussi beaucoup de morceaux, il faut quand même lui rendre ça, et Elise écoute beaucoup plus de morceaux, et comme elle est plus structurée que moi, elle note, elle sait de quel album ça vient, etc., et moi, c'est plus sauvage, j'écoute, j'adore, donc j'écoute, et puis c'est tout. Elle essaie de savoir qui c'est, et puis alors, j'ai découvert des groupes dont je me réjouis d'avoir la suite, par exemple Times Bold ou Mika P. Hinson qui a signé un des morceaux du film. Voilà, sont les auteurs que je suis et dont je me réjouis d'avoir la suite.
Mais vous avez toujours le goût là pour le coup du concert. On parlait de théâtre lundi, vous y peut aller le concert, vous aimez ça physiquement?
Alors j'ai adoré les concerts rock, c'est-à-dire ceux où on boit tellement qu'on n'entend plus, mais c'est des vrais moments. Ça, c'est quand là on fait corps avec la musique. Après, ce que j'aimerais essayer maintenant, ce que je n'ai jamais fait, je n'ai jamais été à l'opéra. Voilà. Et mon épouse m'a toujours dit, elle y allait toutes les semaines avec sa tante, et elle me dit, il faut qu'il y ait, parce qu'on a un très bel opéra à Liège.
Ah oui.
Et elle me dit, il faut que ce soit un bel opéra, sinon tu vas t'emmerder, mais il faut que ce soit un bel opéra. Donc, on attend d'avoir un bel opéra, et je me réjouis d'aller à l'opéra. Mmh. Voilà. C'est quelque chose que je n'ai pas encore goûté. Donc, à 50 ans, je n'ai jamais écouté un opéra. Et je me dis, c'est bien aussi encore d'avoir des choses qu'on n'a jamais faites.
Mais dans les musiques que vous écoutez, alors, soit pour écrire, soit pour votre plaisir, est-ce que la musique classique, justement, aussi?
Dans, pas pour écrire, là, mais par contre, j'ai besoin d'écouter, par exemple, Il Calto della Sibilla, qui est de la musique italienne. Ça, c'est des morceaux que j'écoute en boucle et qui me font énormément de bien. J'adore Debussy, par exemple, aussi. Et Eric Satie, ça, c'est des musiques que j'écoute depuis toujours. Plutôt de la musique fin 19e, début 20e.
Et vous pratiquez un instrument, Bolina Nurse?
Bah non, c'est mon grand regret. J'aurais tellement voulu être un guitariste de rock, mais non, j'ai tout essayé et ça n'ira jamais. Et
vous auriez voulu être qui si vous aviez été guitariste de rock à la place de quelqu'un d'autre?
Ah, moi j'aurais voulu être Billy Gibbons des ZZ Top ou alors Andy Summers du Police. Ouais. Je voulais tout de suite être un bon. Ou alors Lemmy.
Motorhead.
Voilà, Motorhead, voilà. Ça c'est pour moi, c'est eux que j'aurais voulu être.
Un peu de Motorhead, va faire de mal Emmanuel Dupuis.
Mario.
Non, hein, Mario Drou.
Non,
vous cautionnez le choix de Bruno Nair,
oui,
c'est très bien.
C'est plein de vitamine C, il n'y a pas de
problème. Pour autant, on va quand même poursuivre cette dispute consacrée jeudi soir à la musique et ce soir quand même plutôt classique et carrément lyrique à nouveau, puisqu'on se rend une nouvelle fois à l'Opéra de Lyon pour y découvrir une nouvelle mise en scène du russe Dmitri Tcherniakov, Lady Macbeth de Mzinsk. Alors, il ne reste plus qu'une représentation Mais vous avez tenu à l'inscrire dans cette programmation ce soir. Vous allez devoir nous dire pourquoi. Alors, on peut néanmoins espérer, c'est souvent le cas avec l'Opéra Lyon, qu'il y aura un DVD de cette production. Je ne sais pas si vous avez des informations là-dessus, mais en tout cas, ce serait bienvenu. Lady Macbeth du district de Mzinsk, c'est son vrai titre à cet opéra. Opéra en quatre actes de Dmitri Chostakovitch, un livret d'Alexander Preiss et du compositeur, qui est inspiré d'un texte de Nikolai Leskov, un opéra qui a été créé en 1934 au théâtre Mali de Leningrad, en même temps qu'à Moscou au théâtre d'art de Stanislavski, qui sera interdit 2 ans plus tard, parce qu'on raconte que lorsque Staline assista à une représentation, il a trouvé que la dimension sexuelle était quand même très triviale, peu compatible avec l'idéal de la famille soviétique. Et donc c'est seulement à la mort de Staline que les autorités soviétiques ont invité Chostakovitch à remanier son œuvre. Il en a en effet proposé une nouvelle version, créée en 1962. Alors lui disait, je ne sais pas si c'était pour plaire au régime, qu'il préférait la deuxième version, mais c'est quand même la première qui est jouée depuis dans le monde entier, comme c'est le cas à Lyon. L'histoire de cette jeune femme qui se sent bien seule dans la Russie profonde du 19e siècle, qui tombe amoureuse d'un employé de son mari. Son mari, riche certes, mais avec lequel elle ne peut pas avoir d'enfant. Tout ça finira mal, je ne peux pas vous le cacher. On va écouter un extrait de cette production.
Это что такое голос какой-то? Надо посмотреть. Измена, измена, Катерина мужу изменяет. Молодца отыскала тоже. Опоздал Борис Тимофеевич, а в чёрт славу Господь. Ладно, погоди.
Bon, et il faut du temps aussi pour parler. On a envie de l'écouter, cette musique. Je vous le disais pendant qu'on écoutait, il est en forme, Kazuchi Ono, Emmanuel Dupuis, le chef d'orchestre.
Totalement. C'est le répertoire du XXe siècle, de toute façon, en général, il sait faire. Et là, c'était quand même assez époustouflant. Récemment, j'ai souvent eu quelques réserves sur l'orchestre de l'Opéra de Lyon, que je trouvais que la plénitude sonore de l'orchestre n'était pas optimale, mais là, ce n'est pas du tout le cas. L'orchestre joue vraiment de façon phénoménal, et puis avec une tension de chaque instant, il n'y a aucun temps mort. C'est du point de vue orchestral, c'est vraiment une très très grande réussite.
Alors, c'est déjà un grand contraste avec l'Opéra de Paris dont nous parlions tout à l'heure. Vous abondez, j'imagine.
Ah oui, j'abonde, et en plus dans la salle, je dois dire qu'on en prenait vraiment plein les oreilles. Là, c'était magnifique. On était, oui, bien
ça
sûr.
Doit sonner terriblement.
Ça sonnait magnifiquement. On était vraiment dans le son et cet orchestre et les chœurs d'ailleurs aussi, puisqu'on parle des forces de l'Opéra de Lyon.
Vrai.
C'était absolument magnifique, vraiment magnifique.
Alors, par quoi doit-on poursuivre si on reste sur le domaine musical, sur ce plateau vocal, on évoquait les 3,5. Bon, ça, c'était pour le trouver. Ici, Marion Drou.
Là, on a quoi? On a... Allez, 2-3 quarts.
C'est
non
pas...
On a 3 quarts, non? Il fait une tête pas possible.
Disons qu'il y a une homogénéité quand même du plateau. Et puis, ça n'est pas du tout comme le trouver. On n'attend pas des performances vocales. Quoi.
Et pourtant, on ne les attend pas, mais elles y sont.
Mais elles y sont
et notamment, la soprano lituanienne, alors je ne sais pas trop si je vais prononcer le nom correctement, Ausrine Studite, qui fait le rôle de Katarina.
C'est un peu italien, là.
Oui, j'ai italienisé, mais et qui est absolument phénoménale. Hein. Elle a pas la plus belle voix du monde, mais alors elle en fait quelque chose de tout à fait saisissant. En plus, scéniquement...
Non, mais c'est ça, ça tient sûrement aussi... Il y a une incarnation absolument touchante, mais ça tient aussi beaucoup sûrement au travail des directions d'acteurs de Tcherniakov. Je pense que dans une autre production, elle n'aurait pas donné...
Ce qu'elle a donné là.
Alors, Tcherniakov, moi, je suis un grand fan. Hein, oui, je veux dire que c'est quelqu'un qui me passionne.
On l'est tous, mais même si, souvent, ces spectacles m'enthousiasment et finissent par m'enthousiasmer et en même temps provoquent un certain agacement. Et ça a été un peu le cas au début, parce que quand l'heure se lève... On est dans une entreprise ultra moderne avec les néons, avec des secrétaires connectés à leurs ordinateurs, des magasiniers qui portent des gilets fluo.
Et là, on se dit, encore.
Et on se dit, le conformisme habituel, ce dont je parlais il y a 15 jours à propos du trou vert de Lille, où cette espèce de conformisme qui consiste aujourd'hui à tout transposer à notre époque. Sauf qu'au milieu de ce décor, il y a une petite pièce qui, elle, est tapissée sur le plafond de tapis, justement, orientaux. Et ça, c'est l'espace de l'intimité de Katia Ismailova, l'héroïne, qui, elle, est corsetée dans sa robe traditionnelle russe. Mmh. Donc, le contraste entre la technologie de la société occidentale, si vous voulez,
et la Russie profonde.
Et l'histoire. Mmh. Alors, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Honnêtement, j'en suis pas sûr.
De quoi de faire cette dichotomie? Moi, je trouve que si, parce que justement, le personnage d'Ekaterina, il faut quand même préciser que cette femme est une triple meurtrière, qu'elle se suicide à la fin. Donc, c'est vraiment.
Après avoir tué beau-père.
Voilà, elle empoisonne son beau-père, elle tue son mari avec la complicité de son amant. Et ensuite, elle tuera la rivale qui lui a piqué son homme.
Son amant, ouais.
Et elle se suicidera. Donc, c'est quand même assez lourd. Hein.
C'est pas mal.
Voilà, oui, c'est pas mal. Et cette femme, elle est présentée comme une sorte d'icône, en fait. C'est comme si c'était une sainte icône se détachait d'un cadre. Et progressivement, elle sort, on sent que tout en elle explose. Hein. C'est une bombe aussi, il faut le dire, cette chanteuse.
Mais...
C'est quelqu'un qui physiquement est magnifique, qui est découplé, qui est musculeuse, qui a une espèce de force d'attraction. Comme ça, et d'ailleurs Tcherniakov, qui n'est pas un idiot, en joue, et elle a une chevelure noire très longue qu'elle déploie et dont elle joue. Enfin, c'est quelque chose de magnifique. Et je trouve que justement de l'avoir cantonnée dans cette espèce de niche iconique et de l'en faire sortir et retourner par moments et qu'à la fin, et elle la détruit de l'intérieur, c'est-à-dire que progressivement il y a les tapis, tout est en ordre, et puis progressivement les choses vont se disloquer. Il y a un moment, il y a une scène de baise énorme avec Sergueï, donc son l'ouvrier qui est arrivé dans l'usine et qu'elle a...
C'est là que Staline se fâche.
Voilà, et là, tout commence à se démantibuler. Donc non, je trouve qu'au contraire, cette espèce de petite capsule comme ça, protégée à l'intérieur de ce monde un peu déshumanisé, un peu industrialisé, etc., c'est quelque chose chose qui justement montre à quel point ce personnage, qui n'a aucun rôle finalement, elle va être obligée de s'en créer un, et les seuls rôles que la société lui laisse, c'est de devenir une meurtrière d'une certaine façon. Mm-hmm. Donc je trouve que Tchernikov, quand même, sur ce genre de sujet, il a toujours quand même des options que je trouve très très intéressantes.
Emmanuel Dupuis.
Oui, mais enfin moi je reste persuadé que ce contraste-là, c'est un peu fastoche, quoi, disons. Et pas forcément nécessaire, parce que ce qui fait la force du théâtre de Tchernikov, mais c'est la direction d'acteur. Et de ce point de vue-là...
Mais il y en a.
Mais il y a toujours des idées avant la direction d'acteur.
Peut-être que...
Toujours une lecture.
Oui, mais c'est un peu didactique, là, si vous voulez, entre eux, effectivement.
Quand vous dites c'est fastoche, si on le fait pas bien. Mais quand on le fait bien, à partir d'une idée que vous dites fastoche, ça peut être très, très bien.
Disons que c'est un peu...
Moi, je sais pas, j'ai été séduite par ce rouge, cette cabine de rouge, enfin, habillée de rouge, avec tous ces tapis. J'ai trouvé ça vraiment plastiquement très, très beau à voir. Parce que justement, l'univers de l'usine, ou avec les types qui avec des cartons, il y a des excavateurs, il y a des machines, tout ce qu'on veut, les filles qui sont en mini-jupe avec leur ordinateur dernier cri, il y a vraiment rien que sur quoi s'arrêter sur le plan visuel. Alors que tout d'un coup, cette femme qui sort comme ça dans ses habits traditionnels, etc., c'est vraiment le symbole de la femme russe et de l'oppression de cette femme par ce mari qui est impuissant et brutal, par ce beau-père qui a envie finalement
je suis d'accord, j'ai bien compris. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un peu plus de dépouillement ne nuirait pas, et que cet artifice... Moi, j'y ai vu une sorte d'artifice décoratif et une fois encore, qui n'apporte rien, parce que la direction d'acteur est d'une telle puissance physique et sexuelle, il faut le dire, qu'on se prend une claque monumentale. Et pour moi, c'est là où ça culmine, c'est au quatrième acte, parce qu'au quatrième acte, là, le décor d'entreprise a disparu. Tout ce que... La seule chose que l'on voit, c'est une minuscule cellule de prison crasseuse qui est au centre du plateau. Donc il y a comme une focale sur cette cellule. Tout le regard est concentré sur Katerina Ismailova et sur sa co-détenue. Et là, à la fin, quand elle assassine sa co-détenue, et quand elle-même se fait... Alors là, elle ne se suicide pas vraiment.
Elle est tabassée à mort
par les gardiens. Non, mais là c'est absolument...
Oui, mais on retrouve la même cellule, sauf qu'elle est plus...
Oui,
voilà, donc c'est une sorte d'envers du décor,
d'accord,
si on peut dire.
Non,
justement, si je trouve que c'est très... Non, je trouve ça très... Voilà.
En fait, vous êtes tous les deux enthousiastes.
Oui, on est enthousiastes.
Mais disons que moi, je pense que parfois, chez Tchernikov, un peu de dépouillement ne nuirait pas et mettrait peut-être davantage en valeur la force de son théâtre qui est...
Ça lui arrive, son Giovanni sombre.
Oui, moi je pense d'ailleurs que Tchernikov, j'ai remarqué ça, peut-être me trompais-je, mais que quand il s'agit d'opéra russe, en l'occurrence, j'ai l'impression qu'il est moins radical que quand il s'agit de s'attaquer au répertoire, à d'autres répertoires.
Totalement.
Parce qu'on ait vu que son Eugène Onegin était somme toute extrêmement fort, hein, d'accord,
oui,
sur le plan théâtral,
mais assez classique
dans visuellement.
Son Prince Igor
Son Prince Igor de Borodine qu'on avait vu au Métropolitain d'Opéra, idem.
Par contre, si on reparle des Carmélites.
Voilà. Alors justement, vous parliez tout à l'heure de DVD d'Opéra de Lyon. Bon, là, ils n'auront pas de procès parce que les dialogues des Carmélites, montés à Munich, ont été, pour l'instant, en tout cas, tout ce qui est support audiovisuel.
La captation audio a été interdite.
La captation audio a été interdite et la vente de DVD aussi par le tribunal.
Parce que les ayants droit ont trouvé que c'était effectivement...
Voilà,
sacrilège.
Ça détournait,
ça c'est une autre histoire, voilà. Mais c'est pour dire qu'effectivement il prend beaucoup plus de liberté avec un répertoire non russe,
bien sûr.
Il y a à peine quelques mots, mais sur la caractérisation des personnages masculins dans cet opéra, parce que vous êtes resté beaucoup sur son héroïne certes, mais les hommes, très rapidement, Emmanuel Dupuis.
Tout est parfait, quoi. Je veux dire que ce soit le
hommes, avec Emmanuel, les hommes sont parfaits.
Non mais
femmes décoratives, c'est sympa.
Mais n'importe quoi. je veux dire la caractérisation de tous les personnages, hommes, femmes, animaux, tout ce que vous voulez, tout est parfait,
d'ailleurs, vous avez raison, les hommes sont très animaux dans la femme aussi d'ailleurs.
Il y a quelque chose de ça. Le beau-père qui est incarné par Vladimir Onyovenko, espèce de beau-père libidineux.
C'est une crapule.
Et brutal, c'est le barine des romans, Sergueï, l'amant, on le sent lui aussi
c'est une brute
totalement cynique,
et le mari c'est un impuissant
c'est
qui Exactement. Voilà, donc,
c'est parfait.
Donc
c'est
alcoolique.
Non, mais si vous voulez, effectivement, quelqu'un qui voyait cet opéra pour la première fois
a tout compris.
Mais a tout compris parce que les personnages sont d'une vérité transparente, quoi, je veux dire. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus.
Voilà pourquoi vous teniez, je vous comprends, à parler de cette Lady Macbeth de Mzinsk de Shostakovich, mise en scène par Tcherniakov avec Kazushi Ono à la direction. Bien sûr, à l'Opéra de Lyon, une représentation seulement encore le 6 février.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Nous concluons cette émission avec le jeu de la dispute. Retour sur le jeu d'hier au soir pour commencer, Antoine Guillaume.
Vous avez gagné des places pour le film La Terre et l'Ombre de César Acevedo. Je vous ai demandé dans quelle région de Colombie ce film avait été tourné. Eh bien, c'est dans la vallée du Cauca dont César Acevedo est originaire.
Ce soir, on fait gagner des places de cinéma pour le très beau film Mad Love in New York des frères Safdie. Quelle question ?
Quel est le nom du collectif de cinéastes indépendants cofondé par les frères Safdie ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer par courriel à auditeurfranceculture@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Marie Audroux en grande forme, Emmanuel Dupuis toujours, et Antoine Guillot évidemment, d'y avoir pris part avec moi. La dispute est possible grâce à Hugo Boursier, Sam Boutata, Daniel Finot, Antoine Guillot et Virginie Le Duo. La prise de son assurée ce soir par Pierre Monteil, la réalisation Daniel Finot. Je vous retrouve demain à 21h pour une dispute consacrée à la littérature en compagnie d'Émilie Barnett et Laurent Nunes. À notre sommaire, une colère noire, lettre à mon fils, de Ta-Nehisi Coates, et puis histoire de la littérature récente, tome 1, d'Olivier Cadio. André Chabin viendra nous livrer sa chronique mensuelle sur la vie des revues. Nous pourrons retrouver Antoine Guillot pour la revue de presse culturelle de La Dispute, les choix de Bouly Lanners, invité de La Dispute, et puis un nouveau cadeau à gagner. Tout ça, c'est pour demain. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture dans quelques instants, le journal de la rédaction.